Sorti aux éditions Des Paysages Louvre en juillet par l'autrice québécoise Gabrielle Filto-Chiba et le premier livre de la collection Animal, un livre qui vous emmènera dans les terres québécoises à travers l'histoire d'une femme et de sa chienne Louvre se prénommant Sequoia. Roman émouvant d'une relation entre l'humain et l'animal mêlant tristesse et joie. Ce roman ne vous laissera pas insensible. Gabrielle Filto-Chiba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice, traductrice, éditrice et artiste visuelle. Vous dirigez la collection Animal aux éditions Des Paysages. Nous allons y revenir dans un instant. Louvre en juillet n'est pas votre premier livre. La vie dans la nature est-il le fil conducteur de vos autres livres?
Absolument, mais surtout l'amour du vivant. Oui. L'amour des plantes, des arbres, des animaux. Oui, je pense que c'est le fil rouge de toutes mes œuvres.
Pourquoi?
Pourquoi? C'est viscéral, hein, parce qu'on est des animaux. Je suis une animale, donc nécessairement, quand je suis allée vivre en forêt, dans ma cabane, dans la forêt boréale, pendant plusieurs années, mais tranquillement, je me suis reconnectée à cette nature sauvage. J'ai été éblouie par toutes sortes de rencontres animales, des aurores boréales, et j'ai eu envie de témoigner, de raconter, parce que c'est un privilège, c'est une chance inouïe d'avoir accès à cette nature qui est encore vivante, féroce, inspirante.
À quoi ressemble cette cabane?
Quatre murs, oui. Un poêle à bois, deux fenêtres grandes comme des écrans géants, puis une vue sur la rivière Kamouraska, qu'on appelle aussi la rivière aux perles, mais c'est un écosystème absolument magnifique, où il y a encore des ours, des pécans, des coyotes, même des carcajous.
Qui vous environne, vous a inspiré donc pour écrire Louvre en juillet?
Oui, en fait, ce lieu que j'ai habité d'abord toute seule, hein, j'y ai vécu une grande solitude et le deuxième hiver, j'ai décidé d'adopter une petite chienne. On dit chienne louve, mais en fait, elle était à moitié husky et moitié coyote. Donc, elle était trop sauvage pour rester dans la compagnie de chiennes traîneaux où elle est née et elle était adonnée. Donc, je suis allée l'adopter dans la région de Charlevoix. Et c'est le début d'une grande histoire d'amour, d'amitié, d'entraide et de survie.
Justement, à travers ce livre, vous nous faites suivre l'histoire d'une relation entre une femme et une chienne louve, où chacune d'elles sera là pour aider l'une et l'autre à différents moments de l'histoire.
Oui, parce que en revenant sur les 12 années de sa vie, je me suis rendu compte qu'on s'était mutuellement sauvé la peau maintes et maintes fois.
Ouais.
Et c'est intéressant de raconter que c'était pas disproportionné comme rapport à la vie, à la mort. Elle m'a sauvé la vie autant de fois que moi la sienne. Et c'était un bel hommage, en fait, une façon pour elle et pour moi de rester ensemble. C'est un tombeau littéraire, ce livre.
Sans nous raconter le livre, quels ont été ces moments, un exemple de cette aide que vous avez reçue et que vous avez apporté à cette chienne louve?
Mais un matin, il faisait très froid, puis j'étais allée chercher des bûches d'or, puis j'en avais pris un peu trop. J'ai glissé dans le sentier, et j'ai vu mes pieds, mes mocassins levés dans les airs, et j'ai vu le ciel, et j'ai senti mon crâne percuter la glace, et je me suis endormie. Sous le choc, sous l'impact, et il faisait moins 20, moins 25 peut-être. Et donc, si ma chienne n'avait pas été là pour me réveiller de ses jappements, de ses léchures, de son insistance, mais j'y serais restée. Donc, et j'ai pu regagner la cabane, relancer le feu, retomber dans les pommes un certain temps et me soigner. Mais c'est grâce à sa présence, puis à son insistance surtout, que je me suis réveillée ce jour-là.
Et à l'inverse, quelle aide, à quel moment vous êtes intervenu pour aider cette chienne?
Alors, j'étais entourée de braconniers aussi. Dans la forêt, il y avait des chasseurs. Il y avait des chasseurs bienveillants, mais il y avait aussi des braconniers qui tendaient des collets pour trapper les coyotes, les lynx, les bêtes à fourrure. Et ma chienne s'est trouvée pendue à maintes reprises dans leur piège et... Une fois en particulier, là, je l'ai cherché pendant peut-être 10 heures dans la noirceur, à tâtons comme ça, en brisant des branches, en me faufilant, et je suis tombée sur un site de braconnage où ma chienne agonisait. Et je lui ai sauvé la vie, et c'est ce qui m'a inspiré un des chapitres de Louvre en juillet, mais aussi mon roman Sauvagine, qui m'a fait connaître en France.
Cette chienne louve s'appelle dans votre livre, hein, Sequoia. C'était le nom de votre chienne?
Oui.
Oui, pourquoi ce nom?
Ah, parce que quand je suis allée en Californie plus jeune, j'ai eu la chance d'aller voir les séquoias géants. Et ça m'a tellement impressionnée. En fait, j'ai été éblouie parce que je me disais, ces arbres-là sont millénaires. Ils résistent aux incendies. C'est des piliers, vraiment. C'est des êtres fascinants. Et quand j'ai rencontré ma chienne, elle avait cette même teinte dans la prunelle, dans ses iris, un brun qui est un peu roux, ambré, qui me rappelait l'écorce des séquoias.
Comment s'est faite cette rencontre entre Sequoia et vous?
Alors, j'ai vu une annonce dans un journal de Mosher. Les Mosher, c'est les guides de chiens de traîneau au Québec. Puis, il y avait une portée de chiots à donner, comme ça, parce que, à cause de leur hérédité sauvage, ils ne pouvaient pas être gardés par la compagnie. Et je suis allée au chenil. Ça s'appelait Aventure Inukshuk. Et j'ai tout de suite rencontré la maman qui s'appelait Friendly, donc qui veut dire amicale en anglais. Et donc, je me suis dit, bon, elle a peut-être une lignée sauvage, certes, mais sa maman est très gentille. Je vais tenter la chance, ma chance. C'était la première fois que j'adoptais un chien aussi. Donc, ça a été une connexion vraiment mémorable.
C'est un roman court et rythmé. Pourquoi avez-vous fait ce choix?
Un peu comme un chien qui court dans la neige, hein, on suit au pas de course la progression de et la croissance et l'amitié qui grandit de Sequoia et de moi. Et je voulais aussi marquer les chapitres par les noms des lieux oui. où on avait vécu. Donc, on a parcouru une bonne partie du Québec ensemble. On a habité dans différentes forêts. On a affronté différents dangers. Oui, alors c'est un peu une géographie de notre grande histoire d'amour.
Vous vivez toujours dans cette nature, dans cet environnement?
Oui, là, je vis au pied d'une montagne, près d'un marais. J'entends les coyotes chanter la nuit, j'entends des hiboux. C'est un lieu vraiment magnifique, dans le sud du Québec, cette fois. Une autre forêt, c'est pas la forêt boréale, c'est une forêt plutôt de feuillus, une forêt humide. On a même des champs de lavande, pas très loin. Il y a des vignobles. Donc, c'est les cantons de l'Est, pour ceux qui connaissent un peu le Québec.
Que trouvez-vous enrichissant dans cette nature canadienne?
C'est une leçon d'humilité.
Oui.
Parce que les humains, on se retrouve en statut minoritaire souvent. Alors, la faune est majoritaire. On est en proie aux éléments, aux tempêtes de vent, au froid, aux incendies de forêt. Alors, c'est bon pour nos égos d'êtres humains qui sont parfois un peu prédateurs, un peu dominateurs. Moi, j'ai trouvé au contact de la nature et de la rudesse des saisons vraiment une leçon d'humilité, d'empathie. Je pense que c'est important de nos jours de se remettre au même niveau que les animaux, les êtres avec qui on partage. On a la chance de partager ces lieux encore beaux et intacts et en santé.
Justement, peut-on dire que votre livre est aussi une manière de rappeler aux humains hein, l'importance de tout ce qui nous entoure et le besoin de protéger cette nature et cette faune et flore hein?
Oui, puis à quel point la relation avec un animal peut nous faire grandir. Oui, moi, au début, quand j'ai adopté cette chienne, c'était moi la mère, c'était moi qui lui apprenais différentes commandes. Mais en grandissant, c'est elle qui s'est mise à m'apprendre des choses, un nouveau rythme. De faire beaucoup de sport, marcher des kilomètres par jour, me lever avec le soleil, m'accorder des siestes. Tout, c'est une forme de décroissance, mais une posture joyeuse face à la vie qui m'est restée par après.
Quels souvenirs vous gardez de Sequoia?
Les plus beaux.
Oui.
Les plus belles années de ma vie, ma jeunesse, ma vingtaine dans la forêt. C'est elle qui a appris à ma fille à marcher.
Oui, vous en parlez dans le livre.
Je raconte dans le livre, mais c'est un moment vraiment que j'oublierai jamais. Ma chienne qui se lève tout doucement, ma fille avec ses toutes petites mains qui s'agrippent à sa fourrure, puis les premiers pas comme ça dans le salon, ça montrait que oui, elle avait cette part sauvage, mais elle était tellement douce et intelligente, elle savait comment ma fille était fragile et avait besoin de soutien pour avancer lentement comme ça dans la pièce.
Quelle était la couleur, son pelage?
Ben, elle était grise, grise ou blanche ou noire, ça dépendait des saisons. Ça, ouais. Elle muait, donc ceux qui ont des chiens de traîneau, ils savent à quel point c'est un défi, hein, la mue du poil. Mais elle était une belle teinte de gris.
Alors, un mot sur les dessins qui illustrent la couverture hein, du livre. Vous pouvez nous dire qui l'a réalisé?
Oui, on a la chance de collaborer avec l'artiste Olivier Mazoué, qui d'ailleurs réalise les œuvres qui ornent les autres collections des paysages, notamment la collection Talisman. Ici, on a voulu collaborer avec lui pour créer la silhouette toujours de l'animal qui va être au cœur de l'histoire. Alors, la collection chez des paysages que je dirige s'appelle Animal, au féminin pluriel. Et donc, sur la page couverture, il y aura toujours cet animal et à l'endo une silhouette féminine parce que, vous l'avez deviné, c'est des livres qui vont être signés par des femmes, des voix nouvelles, des voix établies, mais des voix de toute la francophonie. J'ai très hâte de présenter les prochains titres sur lesquels je travaille déjà. Je lis beaucoup de manuscrits, mais pour l'instant, on fait de la littérature lente. Donc, on veut pas aller dans le même rythme effréné que les rentrées littéraires. On sait que les libraires sont surchargés. Il y a des centaines et des centaines de titres. Et nous, on veut aller lentement, mais sûrement.
Vous allez y revenir dans un instant. Un mot sur les autres livres aussi que vous avez écrits. Vous pouvez nous dire quelques mots, rappeler les titres de ces livres?
Oui, alors j'ai écrit une trilogie qui commence par « En cabané ». Ensuite vient Sauvagine et Bivouac. Ça se trouve en poche chez Folio. C'est ce qui m'a fait connaître en France. Puis en ce moment, on travaille sur l'adaptation au cinéma, notamment de Sauvagine, qui raconte l'histoire de braconnage que je viens de mentionner, là, qui a aussi inspiré un chapitre dans Louvre en juillet. J'écris aussi de la poésie. J'ai un recueil de poésie qui est paru chez le Castor Astral, qui s'intitule « La forêt barbelée ». Et au printemps viendra un deuxième recueil qui s'intitule « La robe en feu ». Alors, Louvre en juillet, c'est mon 8e livre, donc j'ai déjà fait mes dents, j'ai fait mes armes, et maintenant, je passe du côté de l'édition. Alors, j'accompagne des auteurs, des autrices, puis c'est un grand bonheur aussi d'être un peu une mentor pour et aussi de tendre la main à des écrivaines qui viendraient de d'autres pays. Chez nous, au Québec, c'est presque impossible de vivre de sa plume parce que on a un bassin de lecteurs, lectrices vraiment restreint. On a besoin de la France, de la francophonie. Moi, j'ai la grande chance de vivre de ma plume et c'est grâce à vous.
Et comment s'est faite cette rencontre entre vous et l'écriture?
Dès l'enfance. Dès que j'ai su tenir un crayon, c'est comme une baguette magique. On peut dire des secrets, on peut inventer des mondes.
Et la nature et l'environnement, vous tout de suite inspiré?
Oui, alors j'écrivais en forêt. Ouais. J'ai eu la chance, je suis née à Montréal, mais toutes les fins de semaine, on partait à la campagne. On avait un chalet au bord d'un lac. Et moi, j'allais derrière, il y avait une belle érablière. J'avais ma cabane qui était faite de branches et de couvertures et de draps. Mais c'est là que j'ai écrit mes premières histoires, dessiné mes premiers animaux. Donc, depuis que j'ai 5 ans.
Alors, je vous invite à lire ce livre, hein, Louvre en juillet, écrit par vous, donc Gabriel Filto-Chiba, aux éditions Des Paysages. Alors, Louvre en juillet, le premier livre de la collection animale dont vous avez la direction aux éditions Des Paysages, hein, vous venez nous le rappeler. Comment s'est faite votre rencontre avec les éditions Des Paysages?
On s'est rencontrés, Amaury Levillaillé et moi, c'était au Festival America à Vincennes. Donc, on était peut-être une soixantaine d'auteurs d'Amérique qui étaient invités. Et c'est l'amitié qui est née aussi autour de notre amour des animaux. On se partageait des photos de nos chiens loups. C'est autour de cette amitié-là qu'on a décidé d'ouvrir la collection animale.
Et quels sont vos critères dans le choix de la composition de cette collection?
Alors, ce sont des œuvres qui sont signées par des femmes, qui parlent de nature et où l'animal prend vraiment une place importante, pour ne pas dire principale. C'est une façon aussi d'entendre des voix qui sont peu entendues dans la littérature d'aventure ou le nature writing, entre guillemets. Donc, c'est des récits de femmes aventurières, exploratrices, mais des expériences vécues surtout. Et je trouve que c'est une façon de pallier à ce manque en littérature.
Alors, vous avez à ce jour des livres, hein, qui paraîtront prochainement dans cette collection?
C'est encore secret. On
travaille.
On peut rien dire? On peut rien dire.
Et vous, de votre côté, donc, il y a donc ce livre, hein, Louvre en juillet, qui vient de sortir. Un autre est en préparation?
Oui, alors j'ai La robe en feu, comme je disais tout à l'heure, ce recueil de poésie qui va sortir chez le Castor Astral au mois d'avril. Et je travaille sur un prochain roman qui va paraître aux éditions Stock dans quelques temps, mais ça c'est dans longtemps encore, j'aurai le temps de vous revenir.
Vous travaillez, vous êtes en train de...
Ah oui, moi j'ai toujours... Présentement, malheureusement, j'ai 26 romans dans ma tête. Donc, je suis en tournée en France pour les prochains jours, la prochaine semaine, mais après, je rentre au Québec et je reprends le collier, je reprends le crayon.
Et dans le décor, paraît que Louvain-Juillet, le prochain?
Là, je vais explorer les vallées fruitières de la Colombie-Britannique dans mon prochain roman, parce que j'y ai travaillé pendant 5 ans à cueillir des fruits pour payer mes études. Alors, c'est une vallée qui est en train de devenir désertique et c'est intéressant.
À cause du changement climatique?
Oui, qui se réchauffe, qui s'assèche, et il y a des serpents à sonnette, il y a des araignées veuves noires, donc il y a des cactus. C'est un écosystème vraiment intéressant. On ne sait pas qu'au Canada, on a des déserts maintenant. Alors, mon prochain livre va se dérouler dans cet écosystème plus aride.
Gabrielle Filto-Chiba, merci d'être venue ici à Radio Présence Pyrénées présenter donc votre dernier livre, Louvre en juillet, aux éditions Des Paysages. Et bonne continuation.
Merci beaucoup. Bonne lecture.